Europe 1. Europe 1.
15h-16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes au début de l'année 1564 à la cour de France. Sir Nicholas Throckmorton, l'ambassadeur d'Élisabeth Ière d'Angleterre, se présente dans les appartements de Catherine de Médicis. Face à l'imposante reine-mère, toute de noir vêtue depuis la mort de son mari, le roi Henri II, le conseiller anglais ne se laisse pas décontenancer. Il faut dire qu'il a acquis une solide expérience depuis ses 5 dernières années de service auprès de la reine d'Angleterre. C'est elle qui l'a envoyé à la cour de France pour plaider la cause de la couronne britannique auprès de Catherine de Médicis. Sûr de lui, l'ambassadeur est bien résolu à infléchir la volonté de la reine-mère en faveur de sa souveraine. « Ma maîtresse, la reine d'Angleterre, regrette vivement que vous n'ayez pas réussi à apaiser les esprits dans votre royaume », lui lance-t-il sans plus de formalité. Catherine de Médicis reste de marbre. Après 17 années passées à la tête du royaume, d'abord aux côtés de son époux Henri II, puis de son fils François II, et enfin en tant que régente de son second fils Charles IX, elle est passée maître dans l'art de la diplomatie. Au fond d'elle, pourtant, la souveraine n'est pas tranquille. Elle sait bien qu'elle a perdu la maîtrise de son royaume, devenu en quelques semaines le théâtre d'une guerre fratricide. À Tours, la foule s'en est prise aux protestants qui ont péri par centaines. Leurs corps reposent au fond de la Loire. À Sens, ce sont des moines catholiques qui sont morts égorgés. Le bruit des massacres, les premiers des guerres de religion, s'est répandu au-delà de la Manche et l'ambassadeur anglais vient en demander des comptes. Car Élisabeth d'Angleterre, en tant que fille du très protestant Henri VIII, ne peut rester indifférente devant le sort tragique de ceux qui partagent sa foi. Mais Catherine de Médicis ne laisse rien paraître de la crainte qui lui ronge pourtant l'âme. « J'ai apprécié le soutien que votre reine m'a apporté dès le début des hostilités, et je l'en remercie », commande-t-elle. Cependant, il est difficile d'apaiser les esprits quand les chefs du mouvement protestant quittent la France pour s'allier aux princes de même religion. En évoquant les accointances anglaises des chefs protestants français et le soutien dont ils bénéficiaient en Angleterre, Catherine de Médicis lance, ou plutôt relance, les hostilités entre les deux reines les plus influentes de l'Europe du XVIe siècle et sans doute aussi les plus opposées. Car, au-delà des intérêts divergents de leur nation, les deux souveraines s'opposent par leur religion. Catherine est une fervente catholique, tandis qu'Élisabeth a embrassé la réforme protestante à la suite de son père. Une différence qui n'est pas sans conséquence, alors que les guerres de religion s'apprêtent à ravager le royaume de France. Dès son accession au trône, Élisabeth affirme en effet son attachement à la réforme protestante. Et elle appose déjà sa marque à la cérémonie de couronnement qui a lieu le 15 janvier 1559, en exigeant que les lectures latines soient traduites en anglais, contrairement aux usages de la liturgie romaine. Cette entorse au cérémonial stupéfait l'évêque et les clercs présents ce jour-là. Le message est clair. En succédant à sa demi-sœur, la très catholique Marie Tudor, Élisabeth compte bien conserver et rétablir les acquis du protestantisme. La jeune reine est désormais le seul maître en son royaume et Rome n'aura pas son mot à dire. L'opposition de la nouvelle reine au pape et à l'église romaine remonte à loin, car Élisabeth est née d'un schisme, celui qu'a provoqué son père Henri VIII. Désespérée par l'incapacité de son épouse, la reine Catherine d'Aragon, à mettre au monde un héritier mâle, celui-ci avait décidé de faire annuler son mariage contre l'avis du pape pour épouser Anne Boleyn, une dame de compagnie de la reine. Ce divorce avait entraîné son excommunication, puis une séparation avec l'église. Mais Anne Boleyn n'a pas eu plus de chance que la première épouse répudiée d'Henri VIII. Incapable, elle aussi, de donner à Henri un garçon, elle tombe rapidement en disgrâce. Le roi finit par l'accuser de haute trahison et la fait décapiter aux abords de la Tour de Londres. Ce n'est que de sa troisième femme épousée, juste après la mort d'Anne, qu'Henri VIII obtient l'héritier tant désiré. Mais le jeune Édouard ne va pas régner longtemps. Après 6 ans de règne, il meurt d'une longue maladie, laissant le trône à sa demi-sœur, la première fille d'Henri VIII, Marie Tudor. Jusqu'ici, rien ne prédestine alors Élisabeth à monter sur le trône d'Angleterre. Tout au contraire, car sa demi-sœur, la reine Mary, est une fervente catholique qui ne peut supporter de la voir persévérer dans la voie du protestantisme. Exaspérée par l'obstination d'Élisabeth, elle finit par la rayer de l'ordre de succession et l'emprisonne à la Tour de Londres. Mais le destin rattrape celle que l'histoire retiendra sous le nom de Bloody Mary, Marie la Sanglante. Frappée par une épidémie de grippe, Marie Tudor meurt après seulement 5 ans de règne, laissant le trône à celle qu'elle s'était efforcée d'éloigner de la couronne, sa demi-sœur, qui devient reine sous le nom d'Élisabeth Ier. Au même moment où elle monte sur le trône, à 25 ans, en novembre 1558, en France, c'est une femme de sa trempe qui s'apprête à en descendre. Quelques mois après le couronnement d'Élisabeth, en effet, le mari de Catherine de Médicis, le roi Henri II, s'effondre d'un cheval lancé à plein galop dans un tournoi. La lance de son adversaire l'a touché en pleine face, arrachant l'œil sur son passage et avec lui la vie du roi, qui succombe à sa blessure 10 jours plus tard, le 10 juillet 1559. Éplorée, Catherine assiste sans joie au couronnement de son fils François II, qui devient roi à l'âge de 14 ans. De noir vêtue, elle porte ses habits de deuil qu'elle ne quittera plus désormais. À voir son fils recevoir l'onction des rois de France, Catherine ne peut s'empêcher de se revoir agenouillée auprès de son mari 12 ans plus tôt, quand elle recevait la couronne qui faisait d'elle une reine. La scène a eu lieu le 31 mars 1547. Catherine devenait l'une des femmes les plus importantes d'Europe, tandis qu'Élisabeth, du haut de ses 11 ans, s'essayait, elle, à la chasse dans les jardins des demeures de la monarchie anglaise. Elle était alors bien loin de s'imaginer qu'un jour, elle aussi, monterait sur un trône. Savait-elle pourtant que Catherine, qui venait d'être couronnée, n'y était pas non plus destinée? Catherine de Médicis, en effet, pas plus qu'Élisabeth, n'aurait dû régner. Orpheline dès sa naissance de l'illustre Laurent de Médicis et de Madeleine de la Tour d'Auvergne, elle grandit sous la protection de son grand-oncle, le pape Léon X. Mais Catherine voit très tôt sa destinée mêlée à la famille royale française, puisqu'elle épouse en octobre 1533 le deuxième fils de François Ier, Henri. 3 ans plus tard, la mort du fils aîné du roi fait d'elle la première prétendante au titre de reine de France. C'est ainsi qu'elle est montée sur le trône, à la mort du vainqueur de Marignan, le 31 mars 1547. Et c'est donc cette scène qui lui revient 12 ans plus tard, par cette matinée de septembre 1559, alors qu'elle assiste au couronnement de son fils aîné, devenu désormais François II. Cette fois-ci, outre-Manche, l'événement est suivi de près par Élisabeth Ier. Elle est désormais la souveraine d'Angleterre et le couronnement de son voisin français est clairement au cœur de ses préoccupations de reine. Soucieuse d'assurer de bonnes relations avec le nouveau roi et sa mère, elle envoie un émissaire en France adresser ses condoléances à François II et prend sa plume pour s'adresser directement à Catherine dans une lettre pleine de tendresse. La première d'une longue correspondance entre les deux femmes. Elles s'échangent des lettres, oui, mais pas toujours des plus aimables. Car Élisabeth d'Angleterre le comprend rapidement. Si Catherine de Médicis n'est plus que la reine-mère, elle ne s'est pas éclipsée du pouvoir pour autant, et c'est bien elle qui gouverne la France derrière son jeune fils à la santé fragile. Les deux reines, ou plutôt la reine et la reine-mère, ont d'ailleurs un espoir commun, celui de faire la paix entre leurs deux pays opposés depuis plus de 7 années dans une guerre à laquelle s'est jointe aussi l'Espagne. Un accord a bien été trouvé, mais la paix reste encore à faire. C'est ce à quoi s'attelle Catherine. En tant que mère de roi et ancienne souveraine, elle use de son influence sur son fils pour faire avancer les négociations. Les lettres envoyées par le jeune roi François II sont ainsi doublées d'un mot de sa main, dans lequel elle exprime son attachement à l'Angleterre et sa très ferme volonté de voir leurs deux royaumes réunis. La question est terriblement épineuse pour les deux puissances qui défendent des intérêts opposés en Écosse, là où protestants et catholiques s'affrontent. Côté français, on soutient en effet la très catholique reine Marie Stuart, puisqu'elle est aussi la reine de France par son mariage avec François II. Côté anglais, de toute évidence, c'est vers les protestants que les efforts se portent. Élisabeth leur fait même livrer de l'argent et du ravitaillement, soucieuse de protéger le protestantisme et de contrer l'influence française chez ses voisins écossais. Après d'âpres négociations, l'Angleterre parvient à un traité tout à son avantage, qu'elle peine cependant à faire accepter à la France. Il faut dire que François II, pris d'une violente otite, est obligé de garder le lit sous l'œil inquiet des médecins royaux et de sa mère, qui craint le pire. car le malheur n'a jamais été loin de l'existence de Catherine de Médicis, qui a déjà vu partir nombre de ses proches. Là encore, le sort ne va pas l'épargner. Pris d'un violent accès de fièvre, François II s'éteint quelques jours plus tard, le 5 décembre 1560. Il n'aura régné pas plus de 18 mois. Éplorée, Catherine assiste encore une fois au couronnement d'un de ses fils, le deuxième cette fois, qui monte sur le trône sous le nom de Charles IX. Sacré, le nouveau souverain est trop jeune pour exercer sa charge. Forte d'une solide expérience à la tête de l'État, Catherine de Médicis est nommée gouvernante du royaume de France en tant que mère du souverain. Pour la nouvelle régente, la priorité est de continuer à faire la paix avec l'Angleterre. Mais il lui faut d'abord faire la paix à l'intérieur du pays, alors que des rivalités entre protestants et catholiques viennent de déclencher en France de sanglants massacres. Ce que la reine Elisabeth ne voit évidemment pas d'un bon œil. Son ambassadeur s'est d'ailleurs rendu plusieurs fois à la cour pour sommer Catherine de Médicis de s'expliquer. En réalité, c'est la guerre qui se prépare entre les deux puissances. Horrifiée par les massacres commis contre les protestants, Elisabeth se résout à les soutenir, même si ses relations avec la couronne de France doivent en pâtir. Dans le plus grand secret, elle signe un pacte avec un chef huguenot, le prince de Condé, et lui promet une armée de 6000 hommes. Mais Catherine de Médicis a un plan pour tenter d'apaiser enfin les relations avec l'Angleterre et faire définitivement d'Elisabeth une alliée. Contrairement à la souveraine anglaise, la régente a des enfants, de nombreux enfants, dont elle compte bien se servir pour étendre ses relations et son pouvoir en Europe. Ce qu'elle n'a pas obtenu par de longues négociations, elle tente donc de l'obtenir par un mariage, celui de son fils avec la reine d'Angleterre. En effet, quoi de mieux pour unir les deux puissances qu'un mariage entre les deux souverains ? Catherine de Médicis n'est pas la première à présenter un prétendant à Elisabeth, mais elle sait les intérêts que pourrait lui apporter une telle alliance. La reine d'Angleterre oppose tout d'abord un non catégorique à un mariage avec Charles IX. Il est bien trop jeune, se contente d'expliquer la reine Elisabeth, de 17 ans son aînée. Catherine attend quelques années avant de revenir à la charge. Si Charles IX, son deuxième fils, ne convient pas à la reine, son troisième garçon Henri, le duc d'Anjou, saurait sûrement la séduire. Grand, athlétique et élégant, Henri a, à n'en pas douter, tout pour plaire avec ses grands yeux noirs et son regard d'une rare intensité. Mais Elisabeth se méfie des avances de la souveraine française et répond sans phare. « J'ai beaucoup d'estime pour Monsieur Henri, duc d'Anjou, mais je crains toutefois que le jeune duc ne soit plus enclin à épouser le royaume que la reine. » En réalité, plus que l'âge et les intrigues politiques, une différence de taille sépare Henri et la reine d'Angleterre. Le fils de Catherine de Médicis est un ardent catholique qui s'est illustré en combattant les protestants, ceux-là même que soutient Elisabeth. La question religieuse devient le point principal autour duquel se cristallisent les oppositions des deux souveraines. Car en même temps que Catherine de Médicis prépare, ou plutôt s'acharne à préparer, un mariage avec la reine d'Angleterre, elle organise une alliance avec le royaume de Navarre. Par un autre mariage, celui de sa fille Marguerite, avec le fils de Jeanne d'Albret, Henri de Navarre, futur Henri IV, Catherine espère faire la paix avec ce voisin protestant. Elle n'a d'ailleurs aucun mal à obtenir cette alliance, car Jeanne d'Albret est bien mieux disposée à l'égard de la France que ne l'est l'inflexible Elisabeth. Et l'union est vite célébrée. Le mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre, en août 1572, est l'occasion d'une fête immense qui rassemble une foule nombreuse dans les ruelles de la capitale. Au milieu des catholiques, de très nombreux protestants se mêlent aussi à la fête, trop heureux de célébrer l'alliance de la couronne de France avec un prince de la Réforme. On distingue dans leur rang de hautes personnalités de la Ligue protestante, comme Gaspard de Coligny. Alors que celui-ci marche aux abords du Louvre, un coup de feu l'arrache soudain à ses pensées. D'un bond, il se retourne et esquive la balle qu'il atteint au bras. Le coup ne lui est pas fatal, mais il va coûter la vie à des milliers de ses coreligionnaires. En effet, la nouvelle de l'attentat se répand aussitôt comme une traînée de poudre et attise la haine entre les catholiques et les protestants. En quelques heures, on en vient aux mains, ou plutôt aux armes et aux fusils, et les catholiques se livrent à l'un des pires massacres que la capitale a connu, entré dans l'histoire sous le nom du massacre de la Saint-Barthélemy. La réaction de la reine d'Angleterre ne se fait pas attendre. Deux semaines après le drame, Elisabeth convoque l'ambassadeur français à Londres et le somme de s'expliquer. Celui-ci a beau expliquer et tenter de convaincre la reine que le massacre est un effroyable accident qui cause une peine immense au roi et à la reine mère, la reine Elisabeth ne peut s'empêcher d'exprimer sa méfiance vis-à-vis d'un royaume qui a laissé s'accomplir une telle boucherie. Mais le massacre de la Saint-Barthélemy ne décourage pas pour autant Catherine de Médicis, qui poursuit toujours son projet d'alliance avec la reine d'Angleterre. Les négociations sont toutefois interrompues par la mort de Charles IX le 30 mai 1574, après 14 années de règne. Elisabeth est la première à adresser ses condoléances à la mère, éprouvée une nouvelle fois, qui assiste au troisième couronnement d'un fils, Henri III cette fois, celui qu'elle n'était pas parvenue à faire épouser Elisabeth, qui le trouvait trop jeune et surtout trop catholique. Toujours désireuse de contracter une alliance avec l'Angleterre, Catherine lui offre en mariage son cinquième fils, qui porte le même prénom que son fils aîné, et son grand-père François. Connu pour ses accointances avec la Ligue protestante française, il apparaît comme le prétendant idéal. D'ailleurs, il sait plaire à Elisabeth qui le reçoit à Londres à l'été 1579. Et la souveraine ne laisse pas partir François sans l'assurer de sa tendre affection. Catherine ne cache pas sa joie. Après toutes ces années d'efforts, l'alliance avec l'Angleterre n'a jamais été aussi près d'aboutir. Elle s'arme de patience, sûre de son succès. De la patience, il lui en faut car la reine Elisabeth ne se décide pas si facilement. « Ce n'est point une affaire qui doit être conclue à la hâte », rétorque-t-elle à l'ambassadeur de Catherine qui la presse. En réalité, Elisabeth ne sait quel parti prendre, car l'union avec François ne fait pas l'unanimité chez ses conseillers. Aussi, elle ne parvient pas à choisir entre son amour pour François et son désir de se rapprocher de Catherine de Médicis d'un côté et son attachement à son peuple et à ses conseillers qui la pressent de refuser une union qui signifierait la domination de la France sur l'Angleterre de l'autre. Doit-elle écouter ces derniers, décevoir son cher François et mettre en péril les relations du pays avec la France ? Elisabeth finit par donner son accord, mais la reine se rétracte dès le lendemain, sans doute sous la pression de ses conseillers. Les semaines, les mois et même les années passent et la réponse de Catherine de Médicis ne vient toujours pas. Tant et si bien qu'après 10 ans d'attente, la mort du prétendant François met fin à tous les espoirs français. C'est le quatrième fils que Catherine de Médicis accompagne jusqu'à la tombe et tous les efforts déployés pour établir une union avec l'Angleterre avec. Apaisée par ses efforts d'alliance, les tensions entre les deux reines reprennent de plus belle. Catherine de Médicis n'éprouve plus que rancœur à l'égard de celle qui était sur le point de devenir sa belle-fille et l'a laissé attendre si longtemps avant de refuser son dernier fils. En France, d'ailleurs, on ne prend plus soin de ménager l'Angleterre et les protestants. Le roi Henri III et sa mère finissent même par se ranger officiellement derrière le duc de Guise et la Ligue catholique. La guerre est désormais ouverte entre Catherine et Elisabeth. Le 7 juillet 1585, Catherine de Médicis signe au nom de son fils un traité d'alliance avec les Guises, excluant ainsi son gendre, le protestant Henri de Navarre, de la succession à la couronne de France. Catherine n'éprouve pas beaucoup de remords à déclarer ainsi la guerre ouverte aux protestants. En fait, elle est plutôt heureuse de défier ainsi Elisabeth. Elle et Henri III font d'ailleurs la sourde oreille aux ambassadeurs envoyés de l'Angleterre pour plaider la cause huguenote. Mais Elisabeth répond et met son royaume sur le pied de guerre. En âme et conscience, elle se doit de défendre et de protéger les protestants attaqués en France. Le premier affrontement a lieu, comme à l'accoutumée, par personnes et pays interposés. Elisabeth envoie un important convoi de renfort aux Pays-Bas protestants engagés dans une guerre contre l'Espagne et leur allié catholique, la France. L'opposition entre les deux femmes se ravive plus encore quand Elisabeth approuve la condamnation à mort de la reine d'Écosse, Marie Stuart, prisonnière de l'Angleterre depuis 19 années. Malgré les supplications de Catherine de Médicis pour celle qui fut l'épouse de son fils aîné, Marie est décapitée. À sa mort, les souverains français prennent le deuil en réponse aux volées de cloches et aux feux de joie qui avaient célébré sa mort en Angleterre. Accablée de chagrin, Catherine de Médicis l'est plus encore par une infection pulmonaire qui la cloue au lit au mois d'octobre 1588. En réalité, depuis quelque temps déjà, Elle n'a plus la même influence sur son fils. Elle ne peut s'opposer le 23 décembre 1588 à l'assassinat du duc de Guise, le chef de la Ligue catholique, devenu trop encombrant pour le souverain. De son lit, elle n'avait pu empêcher l'irréparable. Minée par ce drame, Catherine de Médicis s'éteint à Blois le 5 janvier 1589 à l'âge de 69 ans. Le sort lui épargne ainsi la mort de son dernier fils Henri III, assassiné quelques mois plus tard, le 2 août 1589. Sans rivale, Élisabeth devient alors la femme la plus puissante de l'Europe, pour un temps en tout cas, et jusqu'à sa mort, 13 ans plus tard, le 24 mars 1603.